Je reprends quelques petits mots par rapport à hier. Donc hier, nous avons commencé par faire la distinction entre disciples et apôtres. Distinction, j'ai essayé de clarifier le plus possible, mais dont on va voir tout à l'heure qu'il peut y avoir assez facilement un petit dérapage, mais nous allons essayer d'éviter les dérapages. Le disciple, c'est donc celui qui suit un maître et qui met ses pas dans les siens. Donc, le disciple, c'est celui qui suit pour nous, chrétiens, une personne, Jésus, et qui, aujourd'hui, va chercher à mettre ses pas dans les siens. Ce n'est pas faire une marche historique, de marcher en archéologue à la suite du Christ, de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est bien d'essayer de marcher aujourd'hui à sa suite. Pour illustrer l'attitude des disciples, je me suis principalement appuyé sur l'évangile de Marc. Et je vais rester aujourd'hui sur l'évangile de Marc. Pourquoi l'évangile de Marc ? Parce que Marc écrit pour les habitants de Rome. Rome n'est pas très loin de nous. Et il écrit avec une mentalité pour des lecteurs qui sont plus proches de notre mentalité que le peuple juif. De plus, dans Marc, par de nombreuses fois, les disciples ne font pas partie de ce peuple élu, ne font pas partie du monde juif. Et si vous voulez, après ce week-end, vous replongez dans la lecture de Marc, hein, c'est 16 petits chapitres, c'est pas très grand l'évangile de Marc, c'est pas très long. Prenez deux crayons de couleur. Un crayon de couleur où en marge vous mettrez Jésus est dans le monde juif, et vous mettrez un autre crayon de couleur, Jésus est au milieu des mondes païens. Et vous verrez que dans l'évangile de Marc, les disciples sont en majeure partie dans le monde païen. Le monde païen en opposition au monde juif. Et je vous proposerai tout à l'heure la lecture d'un disciple qui, lui, est vraiment hors norme, hors de la structure, hors du monde religieux. L'évangile de Marc montre aussi que les disciples et être disciple, c'est loin d'être une évidence. Ils voient et ils ne comprennent rien. Jésus leur fera quelques reproches. Que votre cœur est lent à croire. Et quand, comme à la suite de Pierre, ils ont parfois un éclair de génie, Jésus va leur dire « silence ». Alors, être disciple, voilà, ça demande du temps. Et dans cette notion de temps, laissons tomber les stéréotypes, laissons tomber les phrases qui peuvent être culpabilisantes. Aussitôt, ils le suivirent. Aussitôt, oui, mais alors moi, le aussitôt, je ne sais pas vous, mais moi je sais que entre le moment où j'ai entendu l'appel à être prêtre et puis le moment où j'ai répondu, il s'est passé plus d'une douzaine d'années. Hein. Donc le aussitôt, ils le suivirent, je ne peux pas dire que ce soit vrai dans ma vie. Et pourtant, oui, aussitôt, j'ai eu envie de me mettre en marche. Donc évitons parfois les côtés un peu culpabilisants qu'il y a dans l'écriture. Aussitôt ils le suivirent, oui, ben, on va le suivre à notre rythme, comme eux, hier, ils ont suivi à leur propre rythme. Deux petits éléments que je voudrais rajouter. Tout d'abord, c'est que le disciple n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et je vous lis un extrait d'une méditation du pape François prononcée le dimanche 23 juin. Même si nous savons qu'en nous, quelque chose ne va pas bien, il faut fuir toute tentation d'avoir honte de soi-même en répondant avec vérité, en suivant l'exemple de Pierre. « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je veux vivre toujours dans la vénération et dans l'amour de ton nom. Tu sais tout. Tu es le monde pour moi. » Ne jamais avoir honte. Ne pas cacher les péchés. Il nous aime tant que nous nous sentons pécheurs. Il nous aime tant. De même qu'il a fait de bonnes choses pour Pierre, nous aussi le Seigneur fera quelque chose de bon, car il est le plus grand, si nous nous laissons guider par la vénération et par l'amour. Cela nous fera beaucoup de bien. Il nous fera aller de l'avant avec assurance. Être disciple, c'est ne pas avoir honte de ce que l'on est, c'est ne pas avoir honte de notre condition de pécheur, et je rappelle ce que j'ai dit hier, ce n'est pas dans notre être qu'est le péché, c'est parfois dans la façon de le vivre. Mais attention, il y a un petit danger qui peut être le nôtre. Quand le disciple est dans notre rencontre avec le maître, quand notre dialogue prend le ton d'une auto-justification, attention à ne pas trop chercher à nous auto-justifier, car ce n'est pas dans l'auto-justification qu'il y a le salut. Le salut, il est dans la route à prendre pour marcher à la suite du Christ. Marcher à la suite du Christ. Et je conclus ce rappel d'hier en vous citant des propos tenus le samedi 7 septembre. Que personne ne se sente visé. Vous sentez-vous visé par toutes les conditions? Vous allez comprendre ce que je vais dire. Et aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de chrétiens sans Christ, sans Jésus. Par exemple, ceux qui ont la maladie des pharisiens, et sont des chrétiens qui mettent leur foi et leur religiosité, leur chrétienté, dans tout un tas de commandements. Ah, je dois faire cela. Ah, je dois faire ceci. Des chrétiens d'attitude, qui font des choses parce qu'il faut les faire, mais qui en réalité ne savent pas pourquoi ils les font. Il y a ensuite un autre groupe de chrétiens sans Christ, ceux qui cherchent des choses un peu rares, un peu spéciales, qui cherchent les révélations privées, alors que la révélation s'est conclue avec le Nouveau Testament. Quelle est alors la règle pour être chrétien avec le Christ? Quel est le signe qu'une personne est un chrétien avec le Christ? Il s'agit d'une règle très simple. Seul vaut ce qui te conduit à Jésus. Seul vaut ce qui vient de Jésus. Jésus est le centre, le Seigneur. Voilà une règle et un signe. La règle est « Je suis un bon chrétien, un bon disciple, si je suis sur la route du bon chrétien, si je fais ce qui vient de Jésus ou qui me conduit à Jésus, voilà ce que dit le pape François en ce samedi 7 septembre. Je voulais rappeler cela pour reprendre aujourd'hui cette notion d'être disciple. Être disciple, nous mettre à la suite du Christ pour être des chrétiens avec le Christ. Paradoxe, mais c'est bien disciple du Christ. Rappelez-vous aussi, hier, je vous invitais à vous dire de qui étiez-vous le disciple ? De Jésus guérisseur ? De Jésus bienfaiteur de l'humanité qui nourrit 5000 et 4000 hommes dans l'évangile de Marc ? De qui sommes-nous réellement le disciple ? Pour rentrer dans cette notion de savoir de qui nous sommes réellement le disciple, je me suis, amusé. Ça a été un plaisir pour moi, et je vais vous en remercier. Je me suis amusé, je me suis plongé dans le Missel romain. Alors le Missel romain, ce n'est pas obligatoirement le livre que vous avez l'habitude de lire. Moi, un peu plus, les ministres du culte un peu plus, mais j'ai essayé d'en faire une lecture en allant chercher dans le Missel romain toutes les bénédictions qui sont adressées au peuple. Et de regarder si dans ces bénédictions, il n'y avait pas une certaine cohérence, je ne sais pas si le terme est juste, mais s'il n'y avait pas une certaine démarche pour répondre à notre question d'aujourd'hui. Disciple du Christ et personne homosexuelle. Et d'aller au creux de ces bénédictions. Et je dois dire que le parcours, et j'espère vous en faire partager la fine saveur, j'espère que ce parcours va vous plaire. Moi, il m'a plu. Et vous allez voir comment il rejoint lui aussi certains propos que j'ai tenu hier. Disciple du Christ, le Christ va nous montrer le Père. Et le Christ ne nous laisse jamais seuls. Je crois qu'il faut que nous ayons vraiment ces deux perspectives dans notre vie de chrétien. Le Christ nous montre le Père. Et il ne nous laisse pas seuls. La bénédiction que nous recevons en fin de chaque messe s'adresse à tous, quelle que soit ma condition, à toute personne. Elle est donnée, mais comment est-elle ressentie ? Comment est-elle reçue par chacun d'entre nous ? Et cette bénédiction, elle est donnée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec vraiment cette notion que le Christ nous guide vers le Père avec l'aide du Saint-Esprit et qu'il est lui-même homme-Dieu. Être disciple. Être disciple, c'est un choix. C'est librement que nous choisissons d'être disciples du Christ. Lecture de l'oraison du début de l'Avent, donc du début de l'année liturgique. Vous croyez que le Fils de l'homme est venu dans ce monde. Au début de l'Avent, hein. On n'est pas encore à Noël, hein. Début de l'Avent. Et il y a déjà cet acte de foi. Vous croyez que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Être disciple, c'est être dans la foi. Être disciple, alors on fait un petit saut. On avance dans l'épiphanie. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Marcher avec lui, plein de confiance. Se mettre en route. Le disciple n'est pas quelqu'un qui s'installe. Bénédiction de Pâques, deuxième dimanche de Pâques, pas du jour de Pâques. Dieu fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le, ce que nous avons fait ce matin. Il vous a offert sa propre liberté. Vous êtes déjà ressuscité, vivez dès maintenant en enfant du royaume. Être disciple, c'est un choix. C'est un choix par lequel on va affirmer notre adhésion au Christ. Que ce choix, nous sommes invités à marcher, à suivre, à nous mettre en mouvement, dans un esprit de totale liberté, en sachant déjà que nous sommes ressuscités. Être disciple, c'est un choix personnel qui me met en mouvement. Disciple, un choix. Disciple de Jésus qui montre le Père. Je reviens à ma bénédiction de l'Avent. La protection du Père. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches. Qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. L'attention du Père pour ses enfants. Dans la bénédiction de Noël, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous tienne en sa bienveillance. Le jour du 1er janvier, c'est Dieu qui est source de toute bénédiction. Le jour de Pâques, la grâce pascale que Dieu offre, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. La bénédiction est là pour dire du bien, pour nous encourager. Nous savons, par notre expérience, que la route est difficile, que parfois cela nous semble non accessible, lointain. Et les bénédictions viennent nous encourager parce qu'elles nous montrent le visage d'un Père, non pas punisseur, mais d'un Père attendri, dont Jésus est le signe. être disciple pour porter du fruit. Quel est le fruit qu'en tant que disciple je vais pouvoir porter? Regardons-les, ces fruits. Au début de l'année liturgique, que soit joyeuse votre espérance, constante votre charité. Dans la bénédiction de Noël, qu'il mette en vos cœurs cette même joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Qu'il vous donne sa paix. Qu'il vous tienne en sa bienveillance. Le jour du 1er janvier, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ. Qu'il vous ouvre à la patience et à la charité. Le jour de Pâques, une joie que rien ne peut vous ravir, pas même la mort. Et le jour de Pentecôte, qu'il vous garde fidèle à votre engagement. Être disciple, c'est sentir en soi déjà les fruits de notre engagement pour nous-mêmes. Être disciple, cela doit nous apporter de la joie, cela doit nous apporter de la paix. C'est pour nous. Cela doit raviver notre espérance. Mais cela nous ouvre aussi à porter du fruit vers les autres, dans la charité. Être disciple pour porter du fruit, porter un fruit qui nous tourne vers nous-mêmes, de paix, de joie, qui nous tourne vers le Christ, l'espérance, qui nous tourne vers les autres, dans la charité. Être disciple, et là je vais faire une petite parenthèse très courte. Quand on reçoit ces bénédictions, eh bien, il est difficile de garder tout ça pour soi-même. Parce que si nous sommes réellement dans la paix, dans la joie, cela doit se voir sur notre visage. Et François nous rappelle suffisamment qu'il en a ras-le-bol d'une église triste. Et ça fait plaisir de voir quelques personnes qui sourient. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Donc du coup, ça doit se voir. Et si ça se voit, difficile de le cacher. Et nous en sommes donc des messagers. Le soir de Noël, qu'il mette en vos cœurs cette même joie. Donc je vous lis la phrase en entier. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle, celle que je préfère, le jour de l'Épiphanie. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier, de devoir parfois descendre au fin fond de nos propres ténèbres. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Qu'il fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Pas sur le vôtre, sur leur chemin. Et vous voyez comment ce qu'on disait hier, le disciple a une vocation particulière qui est propre à chacun. Et en fin d'année liturgique, à la Pentecôte, que le feu d'en haut venu sur les disciples vous fasse porter au monde sa lumière. Au terme d'un parcours, le disciple pourra être appelé à être apôtre, à être le témoin, mais il faut d'abord être disciple avant d'être apôtre. Et je vais, après cette petite parenthèse, disciple-apôtre, je vais revenir, mes disciples, pour suivre le Christ, mais pour aller où? Quel est le but final de ce voyage? Alors, le but de ce voyage, il est où? Dans les bénédictions. Le soir, le jour de la nativité, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. En début d'année, le jour de la prière du 1er janvier, qu'il vous achemine vers le bonheur sans fin. Le jour de l'Épiphanie, et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur votre étoile. Le disciple sera avec son maître, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et le soir de la veillée pascale, ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Être disciple du Christ, c'est avoir cette notion que dès aujourd'hui, nous plaçons notre bonheur dans une course qui n'est pas que des médailles d'or, mais qui est pour une joie bien plus grande d'être avec le Christ pour l'éternité. Je ne sais pas si hier vous avez regardé, hier soir en rentrant, mais hier, il y a eu un exploit technique. Hier, il y a eu un exploit. Il y a un record du monde de saut qui est tombé. Et je me disais tout à l'heure pendant la prière que ce que j'ai entendu hier vient bien illustrer ce qu'est disciple du Christ aujourd'hui. 20 et quelques années que ce record n'est pas tombé. Mais il y en a des gens qui ont marché à la suite pour essayer de le faire tomber. Ils n'y sont pas arrivés. Mais il y en a au moins un qui ne s'est pas découragé, qui a continué. Et puis dans les commentaires de l'un de ses confrères sportifs qui a essayé avant lui, il y a ce commentaire. Il n'a ni la stature, ni la compétence, ni le charisme, ni. Il n'a rien pour le faire, mais il l'a fait. Et je me suis dit que c'était un bel exemple pour nous. Nous n'avons aucune compétence pour suivre le Christ. Nous n'en avons pas le charisme. Nous n'en avons pas. Nous avons toutes les limites. Nous avons toutes les tares possibles et inimaginables. Mais nous le faisons. Mais si lui, il a gagné hier, c'est uniquement grâce à lui. grâce à son travail. Et nous, nous avons une chance, que si nous gagnons, ce n'est pas que grâce à nous. Ce n'est surtout pas grâce à nous. C'est que suivre le Christ, ben c'est accepter de dépendre que la réussite ne vienne pas de notre côté, mais du sien, parce que c'est lui qui nous sauve. Alors je vous confie cet exploit sportif d'hier, pour que vous soyez des voltigeurs et des disciples de Dieu, et que, avec lui, en disciples, nous puissions franchir toutes ces difficultés pour sauter la barre qui est la nôtre. J'ai volontairement pris, pendant un premier temps, les bénédictions de l'Église qui balaye le temps liturgique. Puis on a un autre bouquin qui s'appelle « Le rituel des bénédictions ». Alors je me suis amusé à aller feuilleter et regarder quelles étaient les bénédictions. Est-ce que ces bénédictions que nous recevons peuvent nous inviter à être disciples ? Parce qu'on peut être disciple chez soi, on peut être disciple à l'église ou dans un sanctuaire. Mais ne peut-on pas être disciple du Christ aussi ailleurs ? Alors je vais vous proposer quelques bénédictions pour nous encourager à être disciples. Prière de bénédiction pour un bureau, là où on bosse. Dieu, dans la disposition de ta providence, tu viens combler de tes bénédictions toutes les activités de l'homme, celles du corps comme celles de l'intelligence. Accorde l'appui de ton secours à tous ceux qui, en ce lieu, chercheront à explorer des problèmes, à résoudre des difficultés, afin qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs recherches et qu'ils obtiennent les résultats recherchés. Une bénédiction qui invite à la persévérance dans des activités humaines. Il n'y a pas d'acte de foi directement dans cette bénédiction. Il y a une invitation à aller au plus profond de nous-mêmes. Une autre bénédiction, s'il y en a qui tiennent un commerce ou qui manipulent Dieu notre Père. Dans ta providence, tu as donné aux hommes la terre et ses produits pour que leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que tu as créés. Bénis tous ceux qui s'emploient à ces travaux. Que la justice et la charité soient respectées, que les achats et les ventes, que la justice et la charité soient respectées dans les achats et les ventes, que les commerçants soient des artisans du bien commun et qu'ils se réjouissent de participer ainsi au progrès de la cité terrestre. Être disciple du Christ dans nos actes quotidiens. Et voilà un dernier lieu où on peut être aussi disciple. Je vous laisserai deviner le lieu. Sans fin, Seigneur, nous te louons. Toi qui as tout ordonné de manière admirable, tu règles avec sagesse les travaux et les occupations des hommes. Tu laisses à leur corps et à leur esprit fatigué des temps de repos et de délassement. Aussi implorons-nous ta bonté. Vous allez avoir le lieu. Que ces locaux prévus pour le sport favorisent aussi la détente de l'esprit et fortifient la santé de l'âme et du corps, et que tous ceux qui viendront s'entraîner ici entretiennent des rapports fraternels et puis une joie qui te rend de gloire. Être aussi disciple dans un local sportif. Je ne sais pas si tous ceux qui fréquentent les salles de sport ont aussi le sentiment d'être disciples là où le Christ les envoie. Voilà différents lieux, différents endroits où le Christ nous envoie. 11h04. J'ai encore un peu de temps. Alors, il nous envoie. Mais pour nous envoyer, il faut peut-être qu'en tant que disciples, nous soyons des gens qui soient capables d'ouvrir les yeux. Et je voudrais vous partager la lecture qu'il y a dans Marc de Bartimée. Bartimée. Bon, il n'est pas très long. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous le lire ? Ça me permettrait de me reposer la voix.
Bartimée, s'il vous plaît.
Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle. On lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin.
Merci. Nous sommes où ? Nous sommes sur un chemin. Nous sommes où ? Ah, c'est dur d'entendre les passages bibliques. Hein ? Nous sommes où ? Jéricho. Donc nous ne sommes pas chez les Juifs. Nous sommes hors du monde bien pensant. Nous sommes à Jéricho. À Jéricho, nous rencontrons un homme, Bartimée, fils de Timée. Donc on va avoir une certaine proximité. Le disciple est quelqu'un dont on connaît bien son identité. Ce n'est pas un mouton, au meilleur sens du terme. Ou s'il est mouton, sachant que le berger connaît chacune de ses brebis. Et là, nous avons deux mondes qui vont s'opposer. Un monde des ténèbres et un monde de la lumière. Il est aveugle. Et j'ai en mémoire la phrase de l'un d'entre vous hier. Où parfois nous-mêmes, en tant que disciples, nous sommes aveugles. Il est parfois plus facile de regarder les murs qui nous emprisonnent que de regarder par les fenêtres. Nous sommes aveugles. Puis, comme pour Bartimée, lumière et ténèbres, monde du bien, monde du mal. Et il semblerait que, y compris dans notre monde, le bien et le mal vont chercher à cohabiter, à s'équilibrer. Mais telle n'est pas la vocation du disciple. La vocation du disciple n'est pas de chercher un compromis entre le bien et le mal. la vocation du baptisé va être d'aller à la lumière. Et voulant marcher à la suite de Jésus, il y en a du monde là. Il y en a du monde qui marche avec Jésus. Il y en a du monde qui fait obstacle à Jésus. Obstacle entre Jésus et Bartimée. Et c'est la capacité d'écoute de Jésus qui va le rendre attentif, qui va virer un certain nombre de ses disciples pour faire de la place aux nouveaux disciples. Une foule de disciples qui rabrouent ce mendiant. Faut surtout pas déranger le maître. N'ayez pas peur en tant que disciple à déranger le maître. Et c'est le cri de Bartimée qui va frayer un chemin jusqu'au Seigneur. J'en peux plus. J'en peux plus de cette vie qui ne mène nulle part. Quelle clameur de souffrance. Mais aussi, quel cri de confiance. Car le disciple, c'est ces deux cris. Cri de souffrance, mais aussi cri de confiance. Parce que s'il ne voit pas, Bartimée entend. Il entend qu'il y a du bruit. Il entend qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il a un cœur qui s'ouvre. Jésus, hier, a su entendre le cri de ce pauvre. Il s'arrête et il l'appelle. Aujourd'hui encore, en tant que disciples, saurons-nous avoir ce cri de confiance? Saurons-nous voir Jésus s'arrêter, nous appeler? Et que fait Bartimée? Que fait Bartimée? Est-ce que vous avez été attentif à ce que fait Bartimée? Il jette son manteau. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il se lève. Il jette son manteau. Il jette son ancienne condition. Il jette la carapace qui le tenait prisonnier. Et il se lève. Est-il guéri à ce moment-là? Non. Il n'est pas encore guéri. La contact, la marche en tant que disciple nous invite à oser dire notre souffrance, oser dire notre confiance, mais que le fruit n'en est pas encore ce que nous attendions. Et il y a un danger pour les disciples, c'est parfois de pouvoir prédire ce qui serait bien pour nous. Mais laissons le Maître nous dire et nous faire comprendre ce qui est bien pour nous. Et Bartimée va faire avec sa guérison, il va faire une expérience d'accéder à la lumière. Il va vivre de cette lumière. Comment peut-être chacun d'entre nous, en étant disciples, nous sommes invités à ce long pèlerinage de la nuit à la lumière. Il y a, avant la rencontre avec le Christ, il y a un avant, il y a un après. Pour Bartimée, il y a un avant, il y a un après. Pour nous, disciples, il y a un avant et il y a un après. Cet après, nous sommes invités à le mesurer. Et nous sommes invités à le mesurer dans les fruits que nous ressentons, dans les fruits que nous portons. En sommes-nous conscients ? Pas les fruits que nous aurions souhaités, mais les fruits qui nous sont donnés. Et ces fruits nous invitent à une expérience de résurrection, nous invitent à une plénitude de vie. Le disciple, et pour lui, il faut qu'il ait toujours en mémoire que le chemin entrepris ne sera pas toujours facile. Il le sera à certains moments. À d'autres, il sera évident. À d'autres, il ne le sera pas du tout. Mais le disciple, c'est aussi celui qui a la certitude que le chemin entrepris mène quelque part. Où ? De façon terrestre, point d'interrogation. Où ? De façon spirituelle, vers le Père. La souffrance sera là. Elle est un point de passage, comme la croix a été pour Jésus un point de passage. Les disciples dans Marc ne comprendront réellement leur place de disciples qu'à la lumière de la résurrection. En tant que disciples, demandons peut-être aussi au Seigneur la grâce de comprendre la résurrection. Alors pour le groupe de partage, je vous invite à une petite réflexion que nous pourrions intituler Comment connaître le Maître ? Je reprends quelques propos du pape François pour conclure et je vous donnerai les questions à la fin. Quoi qu'il en soit, nous dit-il le 26 septembre, dans une homélie intitulée « Connaître Jésus ». Quoi qu'il en soit, on ne peut pas connaître Jésus en première classe, ou dans la tranquillité, encore moins en bibliothèque. Jésus, on ne le connaît que sur le chemin quotidien de la vie. On peut le connaître également dans le catéchisme. C'est vrai. Le catéchisme nous enseigne tant de choses sur Jésus et nous devons l'étudier, nous devons l'apprendre. C'est ainsi que nous apprenons que le Fils de Dieu est venu pour nous sauver, Et nous comprenons l'amour du Père à travers la beauté de l'histoire du salut. Reste toutefois le fait que la connaissance de Jésus à travers le catéchisme n'est pas suffisante. Le connaître avec l'esprit est déjà un pas en avant. Mais il faut connaître Jésus dans le dialogue avec lui. En parlant avec lui dans la prière. Si tu ne pries pas, si tu ne parles pas avec Jésus, tu ne le connais pas. Il y a enfin une troisième voie pour connaître Jésus. C'est la séquela, aller avec lui, marcher avec lui, parcourir ses routes. Et tandis que l'on marche avec lui, on connaît Jésus avec le langage de l'action. Et quand on marche avec lui, on connaît Jésus avec le langage de l'action. Connaître le Maître. Et voilà les questions que je vais vous proposer en groupe de partage. Comment je fais la connaissance du Maître ? Est-ce que je fais la connaissance du Maître par l'enseignement, le caté ? Est-ce que je fais la connaissance du Maître par la prière ? Est-ce que je fais la connaissance du Maître en marchant avec lui, avec le langage de l'action ? Avec le langage de l'action. Je crois qu'il ne faudra pas obligatoirement chercher à opposer ces façons, mais de voir comment ces façons m'aident et m'éclairent dans l'image du Maître que j'ai. Et ce qui était là hier, rappelez-vous, vous ai invité à dessiner le Maître. Essayez d'approfondir un peu ce dessin et comment ce Maître m'invite à être disciple aujourd'hui.